Mais oui, bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
Eureka!
Notre vie tout entière est rythmée par le cycle des jours, des mois, des années, mais comment en est-on arrivé à établir ces normes temporelles devenues indispensables? La réponse tient en un mot, le calendrier. D'une multitude de divisions temporelles selon les cultures et les religions, on est passé avec le calendrier grégorien à une convention universelle qui s'est imposée au fil des siècles. Alors sortez vos agendas et faites une croix à la date du jour, vous ne regarderez plus jamais votre calendrier de la même façon. Calendrier au jour le jour, c'est le programme temporel qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour nous raconter l'histoire de l'invention du calendrier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Denis Savoie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des sciences à Universcience, chercheur associé au laboratoire système de référence temps-espace de l'Observatoire de Paris, PSL. Nous sommes également en ligne avec Olivier de Solan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archiviste paléographe et vous êtes l'auteur aux éditions du CNRS du livre « La réforme du calendrier au concile de Constance et de Bâle ». Alors on va commencer cette émission avec une question toute simple, Denis Savoie. Question toute simple qui n'est pas si simple que ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un calendrier et pourquoi est-ce qu'on a voulu en construire ?
Alors les premiers calendriers, c'est grosso modo 5000 ans avant notre ère et ça répond à une nécessité d'organisation de la société parce que à partir du moment où vous avez une société structurée, il faut l'agriculture, il faut une vie sociale et donc il faut rythmer le temps, la scansion du temps a obligé les premières civilisations à découper l'année en différentes parties. Donc c'était vraiment un besoin social pour vivre.
Mmh. Le calendrier, c'est devenu un objet courant, un objet commun. On en a tous et toutes un dans notre téléphone ou sur notre mur avec des petits chatons chez nos grands-mères. Ça n'a pas toujours été un objet collectif, un objet commun, un objet populaire, on va dire. C'était d'abord un outil qui appartenait à une élite.
Absolument. Les gens, beaucoup de gens ne savent pas quel jour on est, quelle année on est. Je rappelle que la notion d'anniversaire est très tardive. Beaucoup de gens, même encore en Occident, au Moyen-Âge, ne connaissent pas leur date de naissance.
Ne connaissaient pas leur âge.
Absolument. Donc du coup, ça appartient à une élite. Ce sont vraiment les princes qui gouvernent, qui ont la main mise sur la gestion du temps. Et aussi, on va en parler, de l'intercalation des mois pour rester en accord avec les saisons. Parce que c'est ça le but d'un calendrier, c'est être en accord avec les saisons. En accord avec le soleil ou la lune, ça dépend ce qu'on choisit, voire les deux.
Olivier de Solan, Denis Savoie à l'instant disait que voilà, les élites se reposaient sur ces calendriers pour une gestion religieuse administrative de la société. Le peuple, lui, avait d'autres repères. Quels pouvaient être ces repères dans ce contexte-là?
Oui, le peuple avait d'autres repères et puis d'autres exigences. Le peuple avait besoin de moins de précision. L'important c'était les travaux de la terre et donc un besoin de précision bien moindre. On voit apparaître au Moyen-Âge les horloges qui vont rythmer le temps d'une manière plus précise, mais le calendrier, comme le disait Denis Savoie, est resté un objet réservé à des élites d'abord religieuses et puis ensuite des élites laïques curieuses de science. Peu à peu, le calendrier est devenu un objet plus répandu et il est devenu encore plus après l'imprimerie. Mmh. Il a été possible d'imprimer des calendriers annuels et non plus des calendriers perpétuels. Et c'est l'ancêtre des calendriers des postes que tout le monde a ou a eu chez soi.
Denis Savoie, on ne va pas arriver tout de suite au Moyen-Âge. On va bien sûr repartir aux origines du calendrier, au tout premier calendrier. On va peut-être aller faire un tour du côté de la Mésopotamie. Sur quel type de repères se fondaient les Mésopotamiens pour construire ces tout premiers calendriers?
Alors en fait, toutes les civilisations vont prendre deux astres pour diviser le temps, ou le Soleil, d'accord, ça va donner des calendriers solaires, ou la Lune, ça va donner des calendriers lunaires, il n'y en a actuellement qu'un seul qui fonctionne vraiment, voire les deux, des calendriers lunisolaires. Et les Babyloniens vont prendre des lunisolaires, donc il doit avoir un calendrier qui approxime déjà la durée de l'année, et qui approxime également le mois lunaire. Alors ce sont des calendriers complexes, parce que ça demande des intercalations régulières, et pendant très longtemps, il n'y a pas une connaissance suffisante de la longueur de ce qu'on appelle l'année tropique, c'est-à-dire l'année des saisons, qui va être un enjeu majeur pour les calendriers solaires. Alors que la lunaison, qui dure à peu près 29 jours 12 heures, est beaucoup plus facile à mesurer. Mmh. Donc à la base, il y a une mesure astronomique à faire avant d'établir un calendrier.
Qui dit mesure dit unité. On parlait, j'évoquais en introduction de cette émission le jour, le mois, l'année. Tout ça, c'est des unités qui sont pas si évidentes que ça à mettre en place et à déterminer. On va commencer par l'unité la plus proche de nous et la plus rapide, le jour. Ça, c'est une question voilà que je me suis posée en préparant cette émission. Je me suis dit, c'est pas mal finalement de se la poser, même si la réponse nous semble évidente, elle l'est pas du tout. C'est quoi un jour ?
Alors un jour, aujourd'hui c'est 24 heures. C'est une division qui remonte aux Égyptiens, qui ont été confrontés à des problèmes de détermination de l'heure la nuit. Alors ça pourrait faire l'objet d'une émission entière, pourquoi est-ce qu'on a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Mais en gros, c'est cet intervalle qui est lié d'ailleurs au calendrier égyptien. La division sexagésimale de la journée et d'une division décimale du calendrier égyptien. Donc ça, c'est le jour, c'est pendant longtemps l'intervalle, par exemple, entre deux couchers de soleil. Mmh. Et les heures, évidemment, ont des durées inégales pendant très longtemps, jusqu'à la fin du Moyen-Âge et pendant toute l'Antiquité. L'heure, c'est la 12e partie de l'intervalle de temps, compris entre le lever et le coucher du soleil. Ce qui veut dire que c'est une heure inégale ou temporaire. Mmh. Il n'y a qu'aux équinoxes où elle dure 60 minutes.
Et ce qui est intéressant, c'est que selon les cultures, selon les époques, le jour ne commence pas forcément à la même heure, selon où on se trouve. On va pas compliquer trop la donne d'emblée, mais c'est
vrai,
intéressant.
Oui. Absolument, dans l'Antiquité, le jour commence au lever du soleil, mais vous avez des civilisations où ça commence au coucher du soleil. Mmh. Par exemple, longtemps dans la région arabo-perse, ça commence au coucher du soleil. Nous, c'est vraiment, chez les astronomes, à partir de Copernic, donc on est au XVIe siècle, on va commencer à compter depuis minuit, d'accord ? Alors c'est minuit vrai, évidemment, c'est du minuit solaire. Mais il y a des fluctuations quant à la façon de commencer le jour, et on le voit encore dans certains cadrans solaires qui ont des heures qu'on appelle italiques, c'est-à-dire le nombre d'heures qu'il reste avant le coucher du soleil.
Olivier de Solan, si on avance un petit peu dans ces unités de mesure, alors il y a une unité de mesure qui n'est peut-être pas tant astronomique, c'est la semaine. Pour le coup, là, c'est vraiment une unité administrative qui arrive bien plus tard dans la fabrication des calendriers, je crois.
Alors la semaine, elle a une origine qui est relativement ancienne. On en trouve des prémices chez les Babyloniens, mais son fondement le plus proche de nous, c'est celui qu'on trouve dans la Bible, puisque ça fait référence à la création du monde, mmh, en 6 jours plus un jour de repos. Donc la semaine, on la voit apparaître dans la Bible, mais elle ne se répand pas partout. En particulier, le calendrier romain dont on parlera ne connaît pas la semaine jusqu'à ce que l'Empire devienne chrétien, mais utilise un autre système de découpage du mois qui est basé sur les calendes, les ides et les nones.
Et on reviendra bien sûr à cette complexité-là propre au calendrier romain. Pour finir avec ces unités-là, Denis Savoie, le mot « mois » en lui-même, je crois que dans les langues indo-européennes et les langues anglo-saxonnes, est intimement lié à la lune. Expliquez-nous un petit peu comment on calcule les mois autour de ces lunaisons.
Alors en gros, on a remarqué très très tôt, donc là on est dans l'astronomie babylonienne, que dans une année solaire, eh bien on avait 12 lunaisons, parfois 13. Donc une lunaison, c'est l'intervalle moyen entre deux nouvelles lunes ou entre deux pleines lunes. Ça dure 29 jours et demi avec des petites fluctuations. Mmh. Donc c'est ça qui est à l'origine du mois. Le mois, ça, c'est vraiment lié aux phases de lune. Mmh. Et ça, c'est très facile à mesurer, à mettre en évidence.
Oui, ça a été déjà même repéré par nos très lointains ancêtres. Je crois qu'il y a 35 000 ans, des préhistoriques gravaient sur des os des points et puis des croissants de lune. On a retrouvé des restes comme ça qui sont encore sujets à interprétation, mais on peut se dire que des préhistoriques avaient déjà eux-mêmes fait le constat de ces lunaisons et peut-être avaient des proto-calendriers. On va en tout cas suivre ces études-là, en tout cas sur ces restes préhistoriques. Peut-être maintenant on en vient au plus complexe, l'année. Ça, c'est vraiment un casse-tête à déterminer. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, l'année, les premières approximations de l'année, qui sont attestées avec certitude, on les connaît par Ptolémée, donc c'est le deuxième siècle après Jésus-Christ, qui va écrire le plus grand chef-d'œuvre astronomique de l'Antiquité, l'Almageste. Mmh. Et c'est par l'Almageste qu'on connaît les mesures qui ont été faites avant. Notamment au deuxième siècle avant Jésus-Christ, on a Hipparque, grand astronome, qui a écrit un traité sur la longueur de l'année. Et Hipparque explique comment il détermine la longueur de l'année. Il prend un solstice d'été mesuré quelques siècles avant lui par un autre astronome qui s'appelait Aristarque de Samos. Il mesure lui-même un solstice d'été. Il regarde l'intervalle de temps entre les deux et il en déduit ce qu'on appelle la durée de l'année tropique ou année des saisons, c'est-à-dire l'intervalle moyen entre deux équinoxes. Mmh. Ça va être ça l'enjeu des calendriers, approximer au mieux l'année tropique avec un nombre entier de jours. Parce que l'année tropique, c'est 365 jours, 5h49, d'accord, en arrondissant les secondes. En plus, c'est une année qui n'est pas constante, ce qui complique le problème. Et du coup, les astronomes de l'Antiquité ont une mesure assez conforme à la réalité. Et on va voir que certains réformateurs du calendrier vont prendre certaines largesses avec cette valeur. Mmh. Mais c'est quand même très performant au deuxième siècle avant notre ère d'avoir mesurer avec une telle précision la longueur de l'année tropique.
Et vous le suggérez d'ailleurs, là on parle d'unités comme si c'était des poupées gigognes qui s'emboîtaient bien les unes dans les autres, le jour, le mois, l'année. Pas du tout. En fait, c'est des données qui sont des unités qui sont difficiles à harmoniser entre elles et c'est ce qui fait que l'histoire des calendriers est aussi complexe et aussi foisonnante.
Alors oui, les unités, c'est compliqué. Bon, le jour, ça va, on l'a divisé arbitrairement 24 heures. Ensuite, le mois, c'est 29 ou 30 jours, voire 31 dans le calendrier romain. Et tout ça, il faut que ça fasse 365 jours, 5h, 49 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait des 5h, 49 minutes? Parce que le problème, c'est les décimales, en fait. Comment on va se débrouiller avec ça? Parce que si on les néglige, c'est ce que vont faire des Égyptiens, on va directement arriver à des problèmes.
Des décalages. Olivier de Solan, une réaction à ce que vient de dire Denis Savoie?
Oui, pour poursuivre ce que vient de dire Denis Savoie, effectivement, la très grande majorité des calendriers sont basés sur l'année tropique et cherchent à mettre en concordance les lunaisons et l'année tropique, qui est un défi redoutable, on a commencé à le dire. On peut peut-être signaler malgré tout un calendrier, qui est le calendrier musulman, qui est plus tardif bien sûr, mais qui lui ne se fonde que sur les lunaisons et ne cherche pas à les mettre en concordance avec l'année tropique, c'est-à-dire le retour de l'équinoxe à l'équinoxe suivant, mais utilise uniquement les mois lunaires, avec donc une année, si on peut l'appeler année, qui est plus courte que l'année tropique, basée sur le soleil, de 11 jours à peu près.
Et on voit bien là, du coup, que le calendrier n'est pas du tout une science aussi exacte que ça. Et c'est ce qui rend son histoire aussi intéressante. Et de son histoire, justement, on va en parler.
Bonjour Casimir. Tu as perdu quelque chose?
Ah, bonjour François. Tu n'as pas vu le mois de mai?
Le mois de mai?
Oui, le mois de mai.
Mais écoute Casimir, le mois de mai se trouve entre le mois d'avril et le mois de juin. Mais c'est pas par terre que tu le trouveras.
Tu es sûr?
Évidemment, Casimir.
Ah bon, merci. Excuse-moi, François.
Mais je t'en prie de rien, Casimir.
France Culture. Eureka. Antoine Beauchamp.
Voilà, on va essayer de pas faire comme Casimir et de pas s'en mêler les pinceaux dans les dates. Denis Savoie, on évoquait donc les calendriers mésopotamiens. On peut peut-être s'arrêter un peu plus longuement sur l'un des calendriers les plus importants dans l'histoire des calendriers, le calendrier égyptien. Comment est-ce qu'il a été pensé? Je crois que c'est le calendrier qui, en termes de l'histoire de l'humanité, a duré le plus longtemps, plus de 4 millénaires. Expliquez-nous un petit peu sur quoi il reposait ce calendrier-là.
Alors effectivement, il est mis en place au 5e millénaire avant Jésus-Christ, et c'est une année de 365 jours.
Donc, déjà.
Déjà.
Ça, c'est déjà
donc,
pas
ça
mal.
Veut dire que c'est voilà, ils ont approximé l'année, 365 jours. Bon, il y a 12 mois, 30 jours. Donc ça fait 360, et à la fin on rajoute 5 jours supplémentaires qu'on appelle épagomène, ça fait 365 jours, pile. Alors il divisait en trois saisons, entre guillemets, c'était pas un calendrier astronomique, d'accord. Et on voit tout de suite ce qui va se passer, comme cette année égyptienne de 365 jours est plus courte par rapport à l'année tropique, hein, d'un peu moins de 6 heures, mais il va se mettre à dériver, c'est-à-dire qu'il va faire le tour des saisons, un peu plus de 1400 ans, il dérive de 1 jour tous les 4 ans. Mmh. Donc tous les 4 ans, on perd un jour. Ça veut dire que si vous avez fixé l'équinoxe, je dis par exemple le 20 mars, ben 4 ans plus tard, ça va être au 19, puis au 18, etc., etc. Et on va vivre comme ça pendant des millénaires avec ce calendrier égyptien qui va être utilisé par les astronomes. Ptolémée dans l'Ad Majest l'utilise et Copernic en 1543 l'utilise encore dans tous ses calculs.
Alors ce calendrier-là, vous dites qu'il était basé sur trois saisons. Pourquoi trois saisons et à quoi ça correspondait?
Alors en fait, il est non astronomique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractère astronomique dans ce calendrier. Et chaque mois est divisé en décans, trois décans, c'est-à-dire trois périodes de 10 jours. C'est ça d'ailleurs qui sera à l'origine de la division du jour en 24 heures, les décans. Donc les décans, ce sont en fait des groupes d'étoiles dans le ciel qui permettent de déterminer l'heure la nuit. Et ce calendrier, le seul caractère astronomique, on va dire, qu'il y a à l'intérieur, c'est le lever héliaque de Sirius. Parce que les Égyptiens ont très tôt remarqué que les crues du Nil, qui annoncent évidemment les cultures intéressantes, coïncidaient avec l'apparition à l'est dans l'aurore, l'apparition fugace de l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius. Et donc, ça annonçait aussi les fortes chaleurs. Par la suite, ça va donner le mot canicule, puisque Sirius se trouve dans la constellation du grand chien, donc Canis Major, ça va donner canicule. Et on va pendant longtemps utiliser ce lever héliaque de Sirius pour les crues du Nil, mais il va dériver dans le calendrier, il tombe jamais à la même date, puisque le calendrier dérive de un jour tous les quatre ans. Et ça ne dérange pas du tout les Égyptiens de vivre avec un calendrier qui est complètement dérivant par rapport aux saisons.
C'est un calendrier aussi qui était donc très basé sur le rite. On sait les Égyptiens très ancrés dans une culture liée à des divinités. En quoi est-ce que ce calendrier-là justement était très rattaché à des fêtes religieuses qui accompagnaient finalement l'organisation administrative de l'Égypte antique?
Alors, on pense que pour les Égyptiens, il y a une disparition, par exemple, de certains groupes d'étoiles pendant une certaine période, qui réapparaissent. Donc, l'aspect religieux, en fait, il n'est pas évident dans la structure même du calendrier. C'est plutôt vraiment lié à l'agriculture, je pense. Et il n'y a pas vraiment non plus de caractère astronomique. Ils n'ont jamais fait le lien, d'après ce que l'on sait, entre le ciel et, mis à part Sirius, et la structure de leur calendrier qui gère en fait la structure politique de la cité.
Olivier de Solan, sur ce calendrier égyptien comme calendrier princeps qui vient un petit peu avant le calendrier romain dont on va parler dans un instant.
Oui, le prestige de la science égyptienne va se percevoir longtemps après. Alors, à l'époque romaine, on va parler de la réforme du calendrier à l'époque des Romains et de Jules César en particulier, qui s'est inspiré des travaux de savants égyptiens. Et puis, jusqu'à beaucoup plus près de nous, sont encore inscrits dans les calendriers des jours qu'on appelle égyptiaques, c'est-à-dire des jours considérés comme néfastes et qui font référence au savoir de l'Égypte ancienne, ou en tout cas ce qu'on en perçoit au Moyen-Âge et puis à l'époque moderne.
Denis Savoie, donc on a parlé de ce calendrier égyptien, de sa structure, de sa longévité également, 4 millénaires, c'est quand même pas rien. Là, notre calendrier, finalement, n'a que 1500 ans à peu près. Non, même pas 1500 ans, puisque
le calendrier grégorien... Alors, oui, mais en fait, le grégorien, voilà. On va le voir, c'est du Julien un peu modifié,
voilà.
On va dire, 2000 ans, on va dire.
On va avancer, en tout cas, dans cette évolution des calendriers. On peut faire un petit détour du côté de la Grèce antique, pour dire que dans la Grèce antique, on est sur un calendrier plus lunisolaire et que c'est un petit peu le bazar selon les cités, on s'arrange avec le calendrier.
Voilà, ça c'est bien résumé. Bon. C'est ça, en fait ce sont des calendriers, il n'y a pas un calendrier. Chaque ville, alors Athènes, Thèbes, Delphes, etc. a son calendrier et son aire de référence. Ce qui complique les choses. Parce que c'est bien beau d'avoir une division de l'année, mais il faut savoir depuis quand on les compte. Et du coup, les historiens, les hellénistes sont confrontés à des problèmes parfois très difficiles, pour remettre tout ça d'équerre. Donc il n'y a pas d'uniformité dans le monde hellénistique avant Alexandre. Après, ça va se structurer parce qu'on va inventer des airs et puis finalement, avec la conquête romaine, ça va devenir romain.
Et ça, comment on l'explique du coup, cette grande diversité entre cités? C'est lié à l'histoire propre de chaque cité et l'ère dans lesquelles elles s'inscrivent, comme vous le disiez. Ça tient à quoi? Des divinités, autre chose?
Je pense, et aussi une certaine indépendance. Voilà, il n'y a pas d'uniformité. Et du coup, chacun, non pas voix midi à sa porte, là, mais chacun a son calendrier, son système, on ne dépend pas des autres. C'est une forme d'autonomie, en fait.
Oui. Si on vient maintenant du côté de la Rome antique, pareil, alors on pense à, évidemment, quand on pense au calendrier julien, à la figure tutélaire de Jules César qui impose un calendrier très structuré, etc. Avant d'en arriver là, pareil, gros bazar dans la République romaine. Oui. Qu'est-ce qui se passait et comment, finalement, ce calendrier était totalement brouillon, pour parler poliment?
Alors, je pense qu'Olivier pourra compléter ce que je vais dire, mais en gros, au 8e siècle avant Jésus-Christ, vous avez le premier calendrier romain, qui est un calendrier sous Numa Pompilius, qui est purement lunaire. Le vrai, vraiment bon calendrier, c'est sous la République, donc on va commencer au 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est un calendrier où on a des années de 355 jours, et tous les deux ans, d'accord, on intercale un mois supplémentaire de 22 ou 23 jours.
Au moment de février, à peu près.
Voilà, donc c'est un calendrier à intercalation, et ça donne une année moyenne de 366 jours. Mmh. Alors, vous l'avez très bien dit, le calendrier, là, devient, sous la République, un moyen de corruption politique. Parce que l'intercalation des mois supplémentaires est laissée au bon vouloir des pontifes. Et selon qu'ils ont des amis ou des ennemis au pouvoir, eh bien ils peuvent rallonger ou raccourcir l'année, ce qui fait que ça devient une usine à gaz, pour le coup, puisqu'on fête les vendanges au printemps. Et donc, quand Jules César arrive au pouvoir, il va rétablir tout ça. Alors, c'est pas un astronome, Jules César. Justement, il va faire appel un astronome grec, qui est Alexandrie, qui s'appelle Sosigène, et il va lui dire, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc déjà, il va falloir remettre le calendrier romain en accord avec le ciel. Donc en 46 avant Jésus-Christ, il va rajouter des jours, ce qu'on appelle l'année de la confusion, qui dure à peu près 446 jours. Mais si vous faites ça, ça va continuer le bazar. Et du coup, Sosigène propose que on ait tous les trois ans, enfin, pendant trois ans, une année de 365 jours, et tous les 4 ans, et au bout de 4 ans, un jour supplémentaire, une année 366. Ce qui donne une année julienne de 365 jours, 6 heures. Voilà, c'est la durée des saisons chez les Romains. 365 jours, 6 heures. Il y a un petit écart.
Olivier de Solan, sur ce calendrier romain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, certes, on vient de taper à bras raccourcis sur ce premier calendrier romain, mais on lui doit quand même, par exemple, le nom de certains mois qu'on utilise encore. Expliquez-nous un petit peu, quand même, ce qu'on peut retenir de ce pré-calendrier julien et comment Jules César l'a modifié.
Alors, oui, effectivement, c'est un calendrier sur lequel repose encore très largement le calendrier qu'on utilise, et on doit notamment à Jules César l'invention de ce qu'on appelle le jour bissextile. C'est peut-être l'occasion d'expliquer l'origine de ce mot, puisque les mois romains étaient scandés par trois jours particuliers, les calendes, le premier du mois, les ides au milieu du mois, peut-être un reste un souvenir de la pleine lune quand on utilisait des mois lunaires, et puis les nones un peu plus tard. Les calendes, d'ailleurs, c'est-à-dire le premier jour du mois, c'est l'origine de notre mot calendrier. Le jour bissextile, donc, qui est intercalé pour obtenir, donc, une fois tous les 4 ans, le quart de jour, qui doit être ajouté à 365 pour atteindre une bonne approximation de l'année solaire, il est ajouté le sixième jour avant les calendes de mars, c'est-à-dire sixième sextum, et donc il y a un deuxième sixième jour avant les calendes de mars, d'où le nom de jour bissextile. Donc le jour bissextile, il était non pas ajouté le dernier jour de février, mais le 24 février. Il y avait donc deux 24 février dans le calendrier romain tel qu'il a été réformé par Jules César.
Denis Savoie, est-ce qu'on peut dire que le calendrier romain est d'une certaine façon aussi le premier calendrier universel, puisque faut pas négliger non plus l'aspect impérial que prend Rome, la Rome antique. Ça permet d'unifier aussi administrativement un empire qui s'étend sur des territoires très vastes.
Complètement. Alors, d'autant plus que à partir du deuxième siècle avant Jésus-Christ, on choisit le 1er janvier comme date de début d'année, qui est la date d'entrée en fonction des consuls. Et pour compléter ce qu'a dit Olivier, Jules César ayant réformé le calendrier, il est assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Hein.
Alors ça c'est intéressant. Voilà. Il y a une petite anecdote parce que le Sénat comprend pas bien sa réforme.
Oui, il y a deux anecdotes en fait. Alors, déjà, le Sénat, c'est les pontifes, mais le Sénat dit quand même Jules César a réformé le calendrier, donc on va changer le nom du mois Quintilis en Julius, et donc ça donne notre mois de juillet. Mmh. Et comme vous l'avez dit, les pontifes ne comprennent pas du tout le décret, et au lieu de faire une année bissextile tous les 4 ans, ils vont le faire tous les 3 ans, ce qui fait que le calendrier recommence à dériver, et donc le successeur de Jules César, qui est Auguste, va s'apercevoir qu'il y a une erreur, il va donc corriger cette mauvaise intercalation, et du coup le Sénat se sent obligé aussi d'attribuer le nom d'un mois à Auguste, et on va changer le nom du mois Sextilis en Augustus, et comme juillet dure 31 jours, il n'est impensable que le mois attribué à Auguste dure moins que 31 jours, donc voilà pourquoi juillet-août ont 31 jours. Voilà.
Un concours un petit peu de virilité.
C'est un problème d'égo en fait.
Si on reste un petit peu dans le long des mois, Olivier de Solan, puisque voilà, ça c'est des questions qu'on se pose pas forcément. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais, je vais pas tous les faire, mais ça vient d'où ces noms-là? Est-ce que ça vient essentiellement de ce calendrier, Julien?
Oui, tout à fait. Alors il y a des noms qui proviennent de divinités, notamment les premiers mois de l'année. Puis il y en a qui sont simplement le numéro du mois dans l'année. Si on pense à septembre. 7e, octobre, 8e mois, novembre, 9e, décembre, 10e.
Ce qui est intéressant, c'est que septembre, c'est censé être le 7e mois, alors que c'est pour nous le 9e mois. Pourquoi est-ce qu'on appelle septembre le 9e mois, le mois 7?
En fait, parce que l'année...
Voilà,
Olivier va le dire, oui.
Olivier de Solan.
Oui, ça fait référence à un moment où l'année ne commençait pas en janvier, comme le disait Julie, mais commençait en mars.
Oui, c'est vrai. Donc, du coup, on retrouve cette étymologie. Décembre, c'est dixième. Et en fait, c'est douzième. Mm-hmm. Donc, ce qu'on appelle le style de l'année, pour employer un terme cher aux médiévistes, ça va être le 1er janvier. Ensuite, ça va être un peu une confusion, parce qu'au Moyen-Âge, Olivier en parlera ça beaucoup mieux que moi, l'année ne va pas commencer au 1er janvier. Il va y avoir des fluctuations. Il va y avoir le style de Noël, le style de Pâques, le style de l'Annonciation. Il faut attendre Charles IX, 1563.
Broussy,
voilà, c'est ça. Mm. Pour que on dise, il faut quand même que l'année commence pour tout le monde en France au 1er janvier.
Et on est
du coup, pour répondre à votre question, c'est vrai que le calendrier julien, enfin romain, il est imposé politiquement par quelqu'un de fort, parce qu'il faut vraiment un état puissant pour l'imposer à tout l'Empire.
Mmh. Et à partir de ce calendrier, vous évoquiez quand même tout à l'heure aussi le fait que malgré tout et malgré ces améliorations, il créait quand même un certain décalage. À quel type de décalage on se préparait avec le calendrier julien en termes d'organisation du temps?
Alors en fait, on a au début, alors déjà il y a une mauvaise interprétation, enfin un mauvais calcul de Sosigène, l'astronome de Jules César, sur les dates des solstices et des équinoxes, puisqu'on va fixer l'équinoxe au 25 mars, alors qu'il tombait à cette époque-là le 23, déjà 2 jours d'écart. Pour montrer la difficulté qu'il y a encore au 1er siècle avant Jésus-Christ à déterminer précisément le jour de l'équinoxe ou la date d'un solstice. Ça se fait essentiellement avec des gnomons ou des armilles. C'est pas facile.
Des instruments qui se servent de l'ombre, voilà.
Exactement.
Pour mesurer le cycle du soleil.
Tout à fait. Et du coup, Sosigène adopte 365 jours, 6 heures, soit un écart de 11 minutes avec l'année tropique. Mais on a vu que Hipparque avait, lui, une très bonne valeur. Mais Sosigène ne l'apprend pas. On ne sait pas pourquoi, parce que il faut dire aussi une chose, nos connaissances sur le calendrier romain sont quand même assez lacunaires. Mmh. On a assez peu d'auteurs qui sont contemporains de cette réforme. Hormis Varron, tous les autres, Pline, Censorinus, Dion Cassius, Macrobe, etc., sont beaucoup plus tardifs. Toujours est-il que en raison de cette règle des années bissextiles tous les 4 ans, le calendrier va dériver. Il va dériver de 1 jour en 128 ans. Alors c'est mieux que les Égyptiens. Les Égyptiens, c'était 1 jour en 4 ans. Mmh. Là, c'est 1 jour en 128 ans. Et du coup, ça ne va pas aider beaucoup de gens pendant longtemps. Sauf que on va rattacher au 4e siècle de notre ère, au calendrier julien, une fête très importante, parce qu'avec l'émergence du christianisme, le concile de Nicée en 325 va rattacher au calendrier julien la date de Pâques, puisque Pâques, c'est le dimanche qui tombe après la pleine lune, après l'équinoxe de printemps.
On va y venir bien sûr à cette influence grandissante de la religion chrétienne dans le développement des calendriers. Peut-être que on peut revenir à une remarque que vous faisiez tout à l'heure et qui n'est pas forcément une chose à laquelle on pense régulièrement, c'est le fait que le travail de chronologie, le travail de l'historien et des historiennes, des historiens, des historiennes, est tellement dépendant des dates que quand on voit le bazar que c'est pour mettre en place un calendrier, on se demande si finalement on parle des bonnes dates. Alors à partir de quand on s'est dit ce point-là, ce sera le point de départ de notre chronologie et on va tourner autour de ça bien malgré nous, mais en tout cas on se servira par exemple de la naissance du Christ pour repère.
Alors je crois qu'Olivier pourra compléter largement parce que lui il est archiviste paléographe. Mmh. Je crois me souvenir que dans l'école des chartes il y a de la diplomatique, autrement dit il y a de l'enseignement de la chronologie. Dans l'Antiquité on a beaucoup d'ères qui existent, hein, c'est-à-dire qu'on décompte les années depuis différents points. Alors il y a les Olympiades qui sont très connues mais qui sont pratiquement pas utilisées. La fondation de Rome, ab urbe condita, c'est très peu utilisé aussi. Ce qui prédomine dans l'Antiquité c'est ce qu'on appelle le système par consulat, c'est-à-dire on sait que tel événement se passe sous tel et tel consul. Là, d'accord,
voilà, en fonction des règnes, finalement.
Exactement. Alors ça, c'est un consulat, c'est un système un peu cyclique. On a des systèmes où on compte depuis un point fixe. Et il se trouve que avec Pâques, qui prend une importance grandissante dans l'Empire chrétien et romain, au 6e siècle de notre ère, on a un moine qui s'appelait Denis le Petit, qui va prolonger une date, une table pascale, c'est-à-dire une table qui donne des années à l'avance à la date de Pâques, et il va proposer de la prolonger non plus depuis l'ère de Dioclétien, donc empereur romain du 3e siècle de notre ère, grand massacreur de chrétiens, et il s'est dit, ça la fout quand même, enfin, je résume, mais il dit, ça la fout quand même un peu mal de compter les années depuis Dioclétien, qui est un grand massacreur, donc qu'on appelait l'ère des martyrs. Il va proposer, on ne connaît pas par contre le détail de ses calculs, il va faire une équivalence, et il dit, moi je propose de compter les années depuis l'incarnation du Christ. Donc il va faire un calcul entre toutes ces ères, et il va dire, l'année où j'écris, ça correspond à telle année depuis la naissance du Christ. Et donc c'est la naissance de l'ère chrétienne, au 6e siècle de notre ère, qui va mettre beaucoup, beaucoup de temps à s'imposer. C'est pas avant 11e, 12e siècle de notre ère qu'on la trouve dans les chartes, Olivier pourra en dire plus, et ça va jusque 14e siècle, 15e siècle en Europe occidentale. Donc ça a mis du temps à s'imposer ce système, parce qu'il y a quantité en fait d'air qui existe.
Olivier de Solan, sur cette notion de chronologie et de difficulté que ça provoque dans le travail des historiens.
Oui. Souvent des questions complexes. Alors, il y a la question de l'air dont on vient de parler. Effectivement, elle met du temps à s'imposer, l'air de l'incarnation. Et puis, on s'est rendu compte après coup... à partir de sources, que la date choisie par Denis le Petit, au 6e siècle, n'était probablement pas l'année exacte de naissance du Christ. Elle était censée représenter. Denis le Petit avait calculé que cette date devait correspondre à 753 à partir de la fondation de Rome, ab urbe condita, dont parlait Denis Savoie tout à l'heure. Il semblerait plutôt que ce soit autour de 750 ou un petit peu avant. Donc, en tout cas, cette ère s'est largement répandue. L'autre complexité pour le travail d'historien, on a commencé à en parler, c'est ce qu'on appelle le style, c'est-à-dire le moment où le numéro de l'année change. Mmh. Et quand on a un texte isolé, il n'est pas toujours simple de savoir quel est le moment qui était utilisé pour changer le numéro d'année, parce que ça pouvait varier d'une région à une autre, d'une institution à une autre, même à quelques kilomètres de distance.
Restez avec nous, parce que justement, après avoir posé un petit peu ces bases touffues, broussailleuses des tout premiers calendriers, on va voir que, heureusement, les choses se simplifient, entre guillemets, un petit peu plus, et on va parler dans un instant du fameux calendrier grégorien qu'on utilise encore aujourd'hui.
Oui, mieux vaut chien enragé que chaud soleil en janvier, fin janvier, moitié grenier, moitié fenier. Si le ciel vient à gronder, récoltes en quantité, mois de janvier sans gelée, mauvaise année. Enfin le plus court des mois, le pire de tous à la fois, dit Valentin, est-ce que le printemps revient? Février débute en lion, mais finit comme un mouton. février de tous les mois le plus matoir. Des fleurs que Mars verra, peu de fruits on mangera, vent ou pluie que chacun veille bien sur lui. Si au jour d'annonciation, hirondelle belle saison, gare au verger s'il y neige, mon aimé, vient le gentil mois d'avril, sous son manteau de grésil, avril le doux et bien le pire de tous. Fleur mincière ne tient guère, fleur d'avril tient par un fil, avril le doux est bien le pire de tous. Puis petite pluie de mai rend tout le monde très gai, mais en bonne bouffe et belle épie en main. Dans un mai fol et gracieux, tout mariage est malheureux. Le beau mois d'avril défait ce qui me plaît. Qui change herbe rare en foin, qui fait abondance de grains. Trop de pluie en juin rend paysan chagrin. Triste jour de Saint-Médard, quand 40 jours plus tard, pluie et froid viennent rendre lent tout grincheux.
L'Almanach amoureux par Jean-Louis Murat dans Eureka sur France Culture, puisque nous parlons tout au long de cette heure de l'invention du décalendrier. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Denis Savoie, historien des sciences à Universcience, chercheur associé au laboratoire Système de référence temps-espace de l'Observatoire de Paris PSL. Nous sommes également en ligne avec Olivier de Solan, archiviste paléographe, auteur aux éditions du CNRS, du livre La réforme du calendrier au concile de Constance et de Bâle. On va y venir dans quelques instants. À ce concile de Constance et de Bâle et à son importance pour l'établissement du calendrier grégorien. Mais pendant la musique, Denis Savoie, vous me disiez, ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi on appelle les jours de la semaine de cette façon. Alors, dites-nous tout. Partagez ça avec les auditeurs et pas seulement avec moi.
Non, c'est amusant de se dire lundi, donc lundi c'est le jour de la Lune, mardi c'est le jour de Mars, mercredi c'est Mercure, jeudi c'est Jupiter, vendredi c'est Vénus, samedi c'est Saturne et dimanche c'est Soleil. Alors, quel est le lien? Pourquoi on passe de la Lune à Mars, etc.? Et en fait, c'est une origine astrologique. C'est-à-dire que, Olivier en a parlé un petit peu tout à l'heure, la semaine, c'est quelque chose de très ancien. Et pendant longtemps, on va attribuer à chaque heure du jour, aux 24 heures de la journée, une planète. Mmh. D'accord? Mais une planète chez les anciens. Parce que chez les anciens, dans la vision géocentrique du monde, quand on part de la Terre, on rencontre la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. D'accord? Et donc, si vous attribuez à chaque heure du jour, de 1 à 24, cette succession de planètes, et que quand vous arrivez au bout de la ligne, vous repartez en continuant, eh bien, les premiers jours, les premières planète des 7 jours de la semaine, qu'on appelle l'astre dominant, l'astre dominant, et bien ça va donner cette succession des jours de la semaine. Donc c'est dû en fait à une influence astrologique.
Voilà encore une occasion de briller dans vos déjeuners de famille grâce à Eureka. Olivier de Solan, si on avance dans l'établissement du calendrier grégorien, alors peut-être on a parlé du calendrier julien. Jusqu'à quand est-ce que il est utilisé et comment s'opère la transition vers le calendrier grégorien? Pour quelle raison finalement on va se dire il nous faut un nouveau calendrier?
C'est un très long processus. Les premières remarques sur les erreurs du calendrier, Denis Savoie tout à l'heure a parlé du décalage de l'équinoxe de printemps dans le calendrier qui sert au calcul de la date de Pâques, d'un jour tous les 128 ans. Ce décalage, depuis le concile de Nicée, il n'a pas cessé d'augmenter et donc il a été de plus en plus visible. Les premières remarques, c'est vers le 8e siècle, un moine anglo-saxon qui s'appelle Bède le Vénérable. Et puis, peu à peu, c'est un sujet qui est de plus en plus souvent traité, mais, insistons-le, dans les cercles ecclésiastiques. Le calendrier, encore une fois, n'est pas un objet du quotidien, mais plutôt un objet qui sert à déterminer la date de Pâques. Finalement, c'est sa fonction première dans la société chrétienne européenne de l'époque. Et donc, cette erreur augmente.
et l'Église se dit qu'il faut faire quelque chose. C'est en fait une erreur qui fait partie des nombreux problèmes de l'Église au XIVe siècle, au XVe siècle, avec les schismes qu'on connaît, c'est-à-dire les périodes où il y a plusieurs papes. C'est l'Église a de nombreux problèmes internes et le calendrier en est un. Et donc le besoin d'une réforme devient de plus en plus pressant. Il est évoqué largement pendant les conciles de Constance et de Bâle au début du XVe siècle. Des projets très précis sont élaborés, mais ils n'aboutissent pas pour différentes raisons. À la fois des raisons politiques, parce que la situation intérieure de l'Église était tendue, et donc il ne paraissait pas judicieux d'ajouter de la division à la division. Et puis certainement aussi pour des raisons techniques. Il y avait un manque d'assurance quant à l'exactitude de la durée de l'année. On n'avait évidemment pas les moyens de mesure qu'on a maintenant. Et donc, les clercs qui s'occupaient des questions de réforme du calendrier n'étaient pas certains que la durée de l'année était bien précise. Et puis, dernière raison, il y avait une culture savante qui était peu répandue, même dans le clergé. Et donc, certains confondaient le calendrier, c'est-à-dire une convention qui permet de désigner les noms des jours avec les jours eux-mêmes. Et certains avaient peur que si on supprimait des jours du calendrier, on va voir que c'est le système qui a été finalement choisi, que si on supprimait des jours du calendrier, on risquait de supprimer des jours dans la vie des hommes.
Denis Savoie, ce qui est intéressant dans ce que dit Olivier de Solan, c'est que déjà c'est un processus très long avant de se mettre en place ce nouveau calendrier grégorien dont on va parler dans un instant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le temps des paysans à l'époque n'était pas le temps des clercs, n'était pas le temps des marchands. Par ailleurs, il y avait des traditions religieuses anciennes qui persistaient, des traditions égyptiennes, babyloniennes, juives. Voilà, tout ça finalement, c'était une espèce de magma où le temps était encore inorganisé. Pour, à l'échelle collective, on va dire, le temps individuel des familles, des villages, des sociétés était à peu près homogène, mais finalement, il n'y avait pas encore cette unité-là, cette unité qu'on connaît nous aujourd'hui.
En fait, comme l'a bien souligné Olivier, c'est surtout l'Église qui s'est emparée du temps. C'est l'Église qui gère complètement le temps. Et c'est donc à elle que le Concile de Trente se met de résoudre ce problème, parce qu'au XVIe siècle, l'équinoxe tombe le 10 ou le 11 mars, alors qu'il a été fixé par le Concile de Nicée au 21 mars.
Le Concile de Nicée, c'était en 325.
Alors du coup, la papauté est obligée de s'emparer du problème. Le pape n'est pas un astronome, donc du coup, il va faire une commission d'astronomes. Donc il y en a deux illustres, Aloysius Lysius, et puis l'autorité suprême des jésuites, Christopher Clavius. Et Olivier de Solan l'a bien souligné, la difficulté majeure, c'est que lorsqu'on va réformer le calendrier, c'est de s'assurer qu'on va choisir une bonne valeur de l'année tropique. Et donc il y a deux valeurs à l'époque qui sont importantes, qui sont très très proches, qui diffèrent de quelques secondes. Celles issues des tables alphonsines, qui sont des tables astronomiques issues des théories de Ptolémée, donc du géocentrisme. Et l'autre, c'est la valeur issue des tables pruténiques, qui sont des tables issues des travaux de Copernic, lequel sera, vous le savez, condamné en 1616, mis à l'index. Mais dans la seconde moitié du XVIe siècle, ça ne dérange personne de prendre des valeurs issues des travaux coperniciens héliocentriques. Et donc il y a très peu de différence, et on pense aujourd'hui, alors c'est pas complètement clair, que c'est plutôt la valeur copernicienne qui a servi aux réformateurs à transformer ce calendrier. Donc cette commission va proposer au pape Grégoire XIII plusieurs actions. Premièrement, de rétablir le calendrier, de mettre en conformité avec le ciel en supprimant 10 jours. On va passer donc du jeudi 4 octobre 1582 au vendredi 15 octobre.
Un petit saut dans le temps brutal, mais arbitraire, et en même temps qui a fait ses preuves.
Alors, ça marche très bien. Donc, ça veut dire, si vous sautez 10 jours, vous les supprimez, ben, vous remettez le calendrier en concordance avec le ciel. Mais si vous faites que ça, la dérive va reprendre. Et c'est là, justement, l'habilité de Clavius et Lysius, c'est d'avoir dit, on va inventer une règle, ça va être donc la règle grégorienne, et qui consiste à supprimer 3 années bissextiles en 4 siècles. c'est-à-dire les années, par exemple, 1700, 1800, 1900, qui sont divisibles par 4, n'ont pas été bissextiles, mais 2000 a été bissextile. De même que 2100, 2200, 2300 ne seront pas bissextiles, mais 2400 le sera.
Tout voilà ça en quoi, grâce à un pape Grégoire.
Alors surtout grâce aux astronomes.
Aux astronomes.
Alors que le pape il a signé à la fin, mais c'est quand même les astronomes qui ont fait le boulot.
Pour la date, c'est 1582 d'ailleurs.
Le 1582,
oui. 82. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Denis Savoie, et je vous pose la question à vous, Olivier de Solan, c'est que quand on voit cet établissement du calendrier grégorien, on voit une collision entre la religion, la science, et finalement aussi à l'image de l'histoire des sciences et du savoir, cet établissement du calendrier grégorien. Et ça montre bien les porosités qu'il y avait à l'époque entre ces deux mondes-là.
Oui, tout à fait. Les commissions qui ont travaillé sur le calendrier étaient composées à la fois de scientifiques et puis de clercs, et puis souvent d'ailleurs des scientifiques qui étaient eux-mêmes des clercs. Donc le lien est extrêmement fort.
Et ça traduit aussi l'évolution des connaissances scientifiques à cette époque. On évoquait le grand nom de Copernic, dont on parlera dans une émission de Eureka consacrée à l'héliocentrisme. Voilà, Olivier de Solan, ça c'est aussi une période un peu bénie pour l'astronomie, on peut dire.
Oui, oui. Et puis je pense que la réforme, elle a pu avoir lieu parce qu'il y avait une meilleure assurance sur les connaissances scientifiques. Certainement des clercs qui s'intéressaient à ces sujets-là, aux sujets chronologiques. Le compute, c'est-à-dire la science de la chronologie, c'était une des sciences majeures que les clercs devaient maîtriser. Et cette habitude de s'intéresser au compute, elle s'est alliée avec des progrès scientifiques et astronomiques majeurs pour aboutir à cette réforme grégorienne. On peut aussi souligner que 1582, c'est après la réforme, et donc certainement qu'à l'époque, les enjeux d'éviter la division de l'Église étaient moins forts, puisque la division, elle avait déjà eu lieu.
Et ça va avoir d'ailleurs une influence sur l'adoption ou non du calendrier grégorien par les États d'Europe, notamment les États protestants, eux, ils récalcitrent un petit peu au début, Denis Savoie, à adopter ce calendrier qui est proposé par le pape Grégoire.
Et les orthodoxes, qui n'ont toujours pas.
Les orthodoxes, ils l'ont toujours pas, mais ils l'ont. Alors, expliquez-nous, ça c'est très intéressant de montrer que, pareil, on se dit, voilà, enfin on arrive au calendrier grégorien à une uniformité, pas du tout. En fait, il met encore du temps avant de s'installer et de s'établir.
Alors, les pays catholiques vont l'adopter tout de suite, pratiquement, donc la France, c'est 1582, après l'Espagne, Portugal, l'Italie, etc. L'Allemagne, c'est beaucoup plus tardif, c'est les protestants, bien que Kepler soit intervenu en disant que bon, faudrait peut-être faire un effort.
Kepler, il disait, alors, Kepler, grand astronome devant l'Éternel, dit, vaut mieux être en désaccord avec les astres qu'en accord avec le pape. Donc ça témoigne quand même de la bonne volonté des protestants d'adopter le calendrier.
Donc les protestants, c'est plus tard, mais vont en finir par l'adopter. L'Angleterre, c'est 18e siècle, c'est 1752. Et on a des pays qui l'ont adopté qu'au 20e siècle. La Grèce, la Russie,
Turquie, la Chine, Turquie, la Russie bolchevique aussi. Et là, c'était pour le coup un symbole de modernité, cette adoption du calendrier grégorien.
Oui, et là récemment, l'Arabie saoudite.
Et pour le coup, alors ce qui est intéressant, c'est que ce calendrier grégorien devient progressivement universel, mais qui continue de coexister avec des calendriers religieux, le calendrier musulman, le calendrier juif, le calendrier hindou, chinois. Et parlons-en un petit peu de cette cohabitation et de cette coexistence des calendriers.
Voilà, alors le calendrier grégorien est utilisé de façon internationale pour tous les échanges, d'accord, socio-économiques, etc. Mais dans les pays, on continue d'avoir des calendriers religieux. Alors, en Occident, c'est le calendrier julien, qui a quand même maintenant aujourd'hui 13 jours d'écart, parce qu'il a continué à dériver. Et vous pouvez voir que le Noël orthodoxe ou la Pâque orthodoxe, elle est décalée par rapport à la Pâque catholique. Le calendrier égérien dont nous avons parlé tout à l'heure, donc qui est une année de 354 ou 355 jours, avec en plus le décompte des années depuis l'Égir, depuis 622.
La fuite de Mahomet, oui.
La Mecque vers Médine. Le calendrier juif, qu'il a un calendrier très compliqué, avec des années lunaires, solaires, embolismiques, défectives, 354 jours, voire 367. Enfin, c'est un calendrier religieux.
Ce qui fait que les fêtes, par exemple, comme le Ramadan ou les fêtes juives, soient décalées dans le temps d'année en année, et que ça tombe pas toujours au même moment.
Alors voilà, le calendrier, par exemple, musulman, donc égyrien, il y a une dérive d'à peu près 11-12 jours par an par rapport au calendrier grégorien. Donc voilà pourquoi ça rétrograde. C'est l'année lunaire, hein, c'est le but du calendrier musulman. Chez les juifs, c'est beaucoup plus stable. C'est un calendrier très élaboré, qui était mis en place au 4e siècle de notre ère, mais qui est un calendrier quand même très religieux.
Olivier de Solan, sur le calendrier grégorien, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Est-ce qu'on peut retenir que c'est finalement une digestion d'un calendrier, d'un objet religieux par l'histoire, et que le calendrier s'est d'une certaine façon laïcisé, ou bien est-ce qu'on peut dire que malgré nous, entre guillemets, on vit encore au rythme d'une religion, la religion chrétienne ?
Alors, le calendrier grégorien, effectivement, il sert de calendrier relativement commun, au moins pour les échanges, comme le disait très bien Denis Savoie, mais il est resté perçu pendant longtemps, et peut-être encore maintenant, comme un calendrier avec un contenu religieux. C'est ce qui peut expliquer d'ailleurs qu'on ait tenté de le réformer encore par la suite. À l'époque révolutionnaire, on en parlera peut-être, et puis même plus récemment. Mais à l'époque, en 1582, quand la réforme a eu lieu, elle est passée, si je peux dire, un peu comme une lettre à la poste, encore une fois, parce que le grand public n'était pas très conscient de ces enjeux-là. D'ailleurs, Montaigne en parle dans ses essais, et il dit bien « Ni l'erreur ne se sentait en notre usage, ni l'amendement, c'est-à-dire ni la correction, ne s'y sent », pour dire que on était peu conscient de l'erreur du calendrier, et puis après sa correction, ça n'a pas changé grand-chose pour la vie quotidienne.
Alors à partir de quand justement on a pris conscience la société a pris conscience du temps du calendrier? C'est la révolution industrielle véritablement qui marque un tournant dans cette obsession pour le jour, le mois, la semaine, l'année. C'est à cause du travail finalement qu'on est obsédé par le calendrier?
C'est certainement à cause du travail, et puis je dirais aussi des moyens techniques de diffusion du calendrier, des progrès de l'éducation. On peut penser à l'imprimerie qui a beaucoup accéléré la diffusion des calendriers, notamment sous la forme d'almanachs, c'est-à-dire des calendriers annuels, donc édités pour une année donnée et non plus des calendriers permanents, et agrémentés de nombreux conseils, des conseils agricoles, des conseils médicaux. D'ailleurs, on avait essayé de faire coïncider le calendrier avec les cycles des maladies. C'est un sujet qui a été étudié par l'historienne des sciences Danielle Jacquard, à qui je dois des remerciements. Et ces almanachs se sont diffusés très largement au 18e, 19e siècle, et encore au 20e siècle. Maintenant, les smartphones les ont largement remplacés, mais jusqu'au 20e siècle encore, les almanachs, les calendriers étaient vraiment très très répandus.
Denis Savoie, si je vous dis qu'aujourd'hui nous sommes l'Octidie 18 Messidor de l'an 230, ça vous évoque quoi ?
Elle est révolutionnaire, forcément. Donc, la Révolution française va par anticléricalité. Anticléricalisme, directement, il faut le dire, a essayé d'abolir le calendrier grégorien. Donc, ils vont instituer en 1793 le calendrier révolutionnaire, où là, on change tout. Hein, on change aussi le début.
La durée de la semaine, voilà. C'est des semaines de 10 jours, des jours de 10 heures.
Alors voilà,
le jour des mois change. Alors, Messidor, c'est pour le mois des moissons. Vendémiaire, c'est les vendanges. Brumaire, c'est les mois des brumes.
Voilà. Alors, c'est Fabre d'Églantine qui va donner tous ces noms. L'année commence le 22 septembre à l'équinoxe d'automne à Paris, ou Méridien de Paris. Donc, il avait au début, il y avait une volonté d'universalité dans ce calendrier, mais en fait, c'était un échec. Il y a aussi cette volonté de réformer la durée du jour. Donc, vous l'avez dit, on va dire, c'est fini les 24 heures. Une journée va durer 10 heures, une heure 100 minutes, une minute 100 secondes.
C'est fou. Donc ça, dire qu'on voilà. a créé de nouvelles conventions. Alors ça paraît complètement arbitraire, complètement farfelu par rapport à notre rythme là.
Non, parce que c'est une décimalisation du temps. D'ailleurs, on le voit toujours aujourd'hui dans les grades et les degrés. Ben, ça vient de là, quoi. Mais bon, ça va pas marcher. La décimalisation du temps, ça va durer 18 mois. Finalement, les gens vont revenir aux 24 heures. Et la première chose que fait Napoléon en 1805, c'est d'abolir le calendrier révolutionnaire, et donc de revenir au calendrier grégorien. Ça montre au passage que toute tentative de modification du temps, c'est une difficulté. D'abord, la société est très attachée à ses traditions. Et puis pour les historiens, c'est une catastrophe parce qu'il y a une rupture du fil conducteur. Mmh. Et donc, aujourd'hui, c'est pas évident de faire l'équivalence entre une date révolutionnaire et une date grégorienne.
Olivier de Solan.
Oui, j'insiste sur un point dont a parlé Denis Savoie à propos du calendrier républicain, c'est que le début de l'année est fixé à l'équinoxe d'automne, mais l'équinoxe vrai tel qu'il est calculé par les astronomes, ce qui n'était pas le cas des réformes précédentes qui utilisaient des cycles. On a parlé des cycles de jours bissextiles, là on se base vraiment sur les données astronomiques précises et on va intercaler des jours bissextile ou l'équivalent, quand on en aura besoin, pour que l'année revienne à l'équinoxe d'automne astronomique. Et c'est un témoignage de l'influence des scientifiques et des astronomes dans les commissions qui ont travaillé sur ce calendrier. Mmh.
Denis Savoie, est-ce qu'on a connu, alors vous l'avez évoqué, voilà, Napoléon est très vite revenu au calendrier grégorien. Est-ce qu'il y a eu, en quelques mots pour conclure cette émission, d'autres tentatives de transformer ce calendrier et de trouver un autre système?
Alors oui, au XIXe siècle, on va y avoir plusieurs tentatives sous l'égide des Nations Unies d'avoir des calendriers fixes, parce que ça fluctue à cause de la date de Pâques, etc. Ça ne va pas fonctionner. Et le calendrier grégorien, il faut le dire, il est quand même très très bon, puisqu'il n'a une dérive que de 3 jours en 10 000 ans, grosso modo. Donc c'est quand même pas mal.
Olivier de Solan, un mot pour conclure sur cette histoire des calendriers, sur cette pérennisation du calendrier grégorien. Est-ce qu'un jour on aura un autre calendrier?
On voit d'après les débats qui ont lieu à l'ONU, effectivement dans les années 50, qu'il y a eu une tentative de rationaliser le calendrier pour un usage économique. On a parlé de réformes religieuses avec le calendrier grégorien, de réformes politiques avec le calendrier républicain. On aurait pu citer le calendrier soviétique de 1929.
Qui lui était basé sur le travail. Ouais.
Ouais, tout à fait. Et puis là, il y a eu une tentative de rationalisation, mais dans un but économique, pour avoir des mois qui aient tous la même durée, des trimestres qui aient tous la même durée, de manière à pouvoir comparer les données économiques d'un mois sur l'autre, ce qui n'est pas le cas avec des mois de 29, 30, 31 jours, 28 jours. Et je pense personnellement que le calendrier grégorien va durer encore. Et on l'a vu dans toute l'histoire qu'on a racontée, les mouvements du calendrier, ils sont très lents. Et la gestation des nouveaux calendriers est extrêmement lente. Donc je pense qu'on pourra encore reparler du calendrier grégorien pendant longtemps.
Longue vie au calendrier grégorien. Merci beaucoup à tous les deux, Denis Savoie et Olivier de Solan, de nous avoir fait le tour de ce calendrier. Light up the sky, I'm high. Rays trickle, face tickle from the warmth. Every evening is an ending. Every morning is a birth reborn. Take a walk and have a conversation in convection. Light the night like incandescent, rich complexion. Feel it like you feel me when the dawn breaks. Early morning wet hash, breakfast with cakes from pan flippers. Say the word and when it's time I'm where I'm supposed to be. Skipper with the rocks, reassure you like insurance that I got you. Make sure nothing in this light will stop you. Make sure when you win this light I spot you. Who you know that shine when they don't got to? Every Evening par Vilma Vritra pour cocher en douceur. Un jour de plus sur ce calendrier. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Garance Prema Agnolo, David Jakuboviez à la réalisation accompagné de Sam Bakiast. À la technique aujourd'hui, c'était Audrey Guélil. Vous pouvez, comme chaque jour, écouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans le grand bain de Reka. Et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. Ooh.
fall? Do you move with the tide? Though we push and we pull, can you put it aside? I was out of my frame, float away from my home. But now we dance at a pace, I float in space, I'm alone. Many moons, many moves, many faces I've shown. In a rut, in a groove, wash away from the shore. Fade away to the tone, hold on the way and be shown. I got you.
Chloé ?
Oui ?
T'es bien ? Je vais te montrer les étoiles.
Moi, les étoiles, je suis pas contre. Surtout si ça me fait aller me coucher plus tard.
Le premier podcast France Culture, Savoir et Science, dédié à la jeunesse. Les mondes de Chloé. Le nez en l'air et la tête dans les étoiles. Histoire de grandes et petites ours. Entre fiction et astronomie, la première saison consacrée au ciel et aux constellations. Les mondes de Chloé, à la belle étoile, par Alice Buteau et Charlotte Roux, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.